Nous allons poursuivre donc par notre sujet principal, le syndicalisme dans les métiers de l'informatique, et plus précisément de Solidaire Informatique, un syndicat des travailleuses et travailleurs des métiers de l'informatique, du conseil et du jeu vidéo. Avec Nadine Stéphan qui doit être avec nous au téléphone. Bonjour Nadine.
Oui, bonjour Étienne.
Super, et Thomas Luquet qui est présent avec nous en studio. Tous deux, voilà, vous êtes adhérentes et adhérentes donc de Solidaire Informatique. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc bonjour Nadine, bonjour Thomas. Une question, somme toute très classique pour commencer. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? D'ailleurs Nadine qui a par téléphone.
D'accord. Moi, je suis donc Nadine Stéphan, je suis membre du Bureau national de Solidaire Informatique. Je suis engagée syndicalement maintenant depuis 12 ans, dont une grande partie maintenant à Solidaire Informatique. J'ai par ailleurs des mandats en entreprise, en CSE, je suis déléguée syndicale. Et je suis également défenseur syndical depuis un an environ. Alors, juste pour dire un petit peu les conditions de mon engagement à Solidaire Informatique, je suis arrivée par conviction ancienne, en fait, et constat de nécessité au vu des conditions sociales dans l'entreprise. Hein, mais ça ne s'était pas, pour l'instant, traduit par un engagement formel syndical. Mais voilà, j'y suis venue comme ça, en voulant mettre en action, en fait, mes convictions. Et je suis donc salariée d'une grosse structure SS2I, donc Société de Services Informatiques. Je dis ce terme-là volontairement, c'était l'ancien nom et que beaucoup le connaissent, qu'on appelle maintenant ESN, Entreprise de Services Numériques. Et je travaille plus précisément dans une filiale software RH. Voilà.
Ok, merci. Thomas Luquet.
Salut, du coup moi je suis syndiqué depuis 3-4 ans maintenant, et je suis libriste aussi depuis un peu plus longtemps, sous Linux, et je suis pareil donc dans une SS2I, donc une société de service, où je suis développeur, enfin je viens de quitter le monde du développement pour passer du côté agile de la force, c'est-à-dire être un peu plus dans l'organisation des projets et des développeuses et développeurs dans l'informatique.
Ok. Une question que j'aime bien poser pour en introduction, et je pense que du coup Thomas tu vas être parfaitement indiqué pour y répondre. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, le logiciel, quand on parle de logiciel libre? Si tu parles du CIP, qu'est-ce que ça t'évoque? Comment tu le présentes aux gens?
Alors, ça dépend à qui je parle, mais pour répondre à la question, qu'est-ce que ça m'évoque, pour moi, c'est le refus de la propriété et des brevets, et qui est un point hyper important. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais Solidaire, c'est un syndicat qui se veut engagé, qui se veut militant, politique, et un des problèmes qu'on trouve, je pense, dans nos sociétés, c'est qu'on met de la propriété privée et des brevets partout. Et justement, passer au logiciel libre, c'est justement refuser cette propriété privée et qui est abusif, et ça permet de faire avancer la technique, la science et les connaissances de manière générale. Et donc, voilà pourquoi je suis libriste. Donc il y a des raisons politiques et des raisons techniques. Je pense que pour les deux, c'est hyper important.
Bien sûr. Nadine, est-ce que tu souhaiterais compléter?
Non, pas vraiment. Je pense que Thomas est tout à fait plus compétent que moi sur le sujet. Tout de même pour une précision par rapport à notre syndicat qui, en fait, dans son congrès 2020, avait présenté une motion sur le logiciel libre. Donc, comme disait Thomas, en effet, c'est fait partie des enjeux et des points importants pour notre syndicat que de revendiquer le logiciel libre. En fait.
Je crois même que c'était un peu avant 2020. Mais bon, il faudrait qu'on regarde les dates. Mais ça fait quelques années qu'on a pris un...
C'est récent, en tout cas, oui.
Ouais. Oui, l'important, c'est l'objet. On va y revenir, je vous propose, parce qu'on va quand même, on va évoquer, bien sûr, le rapport qu'a Solidaire Informatique avec le logiciel libre, tant dans ses pratiques que dans ses revendications. Peut-être que ça peut être intéressant, peut-être d'abord d'une manière plus générale. Déjà, qu'est-ce qu'un syndicat? C'est vrai que c'est un terme qui est dans le langage courant, qu'on entend régulièrement parler. C'est pas forcément clair pour tout le monde ce qu'est un syndicat, quel est son rôle. Voilà. Qu'est-ce qu'un syndicat, Nadine Stéphan?
Alors, en fait, déjà, un syndicat, sans parler précisément de l'informatique, c'est un regroupement de travailleurs et de travailleuses. Alors, ça peut être assez large, la notion de travailleurs et de travailleuses, on pourra en parler peut-être plus précisément après, mais qui organise la défense de ses intérêts. Donc, si on rentre peut-être plus particulièrement sur Solidaire Informatique, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un... Mais je sais pas si on veut orienter vraiment dans le détail pour l'instant la réponse, je sais pas. Si je dois préciser un peu, Solidaire Informatique, c'est un syndicat de l'Union syndicale solidaire. Et cette notion d'union syndicale, elle est importante aussi puisqu'elle fédère en fait un ensemble de syndicats. De syndicats de branches, mais de syndicats, alors quand je dis de branches, ça veut dire de secteurs professionnels, en fait, et de syndicats locaux aussi, parce qu'on est organisé de cette façon-là, y compris à Solidaire Informatique, donc à un niveau plus fin. Et donc, Solidaire Informatique est adhérent de cette union syndicale. Nous, on existe à peu près depuis 2011. L'union syndicale Solidaire, elle a été créée en 1981. Donc, c'est vraiment le regroupement des travailleurs et des travailleuses, nous, en l'occurrence, de l'informatique. Donc, et plus particulièrement dans notre secteur, ça touche à la fois l'informatique en général, mais on a aussi les cabinets de conseil, les jeux vidéo, enfin voilà.
Je crois que Thomas souhaitait compléter.
Ouais, concrètement, c'est vrai que c'est défendre des intérêts, c'est exactement ce qu'a dit Nadine. Ça veut dire quoi, nos intérêts de travailleurs? Il y a évidemment la question des salaires, mais il y a un peu plus, il y a la question des retraites qui sont pas directement liées à notre entreprise, mais qui sont liées au niveau national. Donc il y a des combats un petit peu comme ça. Et ça peut être aussi le temps de travail. Bah voilà, est-ce qu'on fait les heures sup, est-ce qu'on fait pas les heures sup? Et puis après, il y a d'autres choses qu'on fait dans un syndicat. On réfléchit, on pense, on a un groupe, on imagine un futur meilleur et on s'organise pour pouvoir obtenir des nouveaux droits. Donc les nouveaux droits, ça peut être tout simplement avoir une machine à café gratuite jusqu'à effectivement des trucs plus sérieux comme d'avoir un vrai système de retraite qui nous servira dans le long terme.
Très bien.
Il y a d'autres trucs un peu cachés. Moi, j'ai découvert ça en étant syndiqué. Il y a aussi un côté un peu des fois psy sur les bords où il y a un tel qui s'est fait engueuler par le patron et c'est aussi le rôle du syndiqué, je crois. Nadine, tu me reprendras d'aller voir, d'aller discuter, d'aller rassurer, d'aller dire qu'on va la défendre ou le défendre quand il y a des soucis X ou Y dans le monde de l'entreprise. Parce que je vous l'apprends pas, le monde d'entreprise n'est pas toujours parfait et parfaitement rose, donc on a un rôle à jouer. Et on est souvent, comme Manny l'a dit, les syndicats sont souvent élus donc, dans des conseils représentatifs au sein des entreprises, notamment le CSE, donc le comité social et économique, où on doit porter la parole des syndiqués, des syndiqués et des salariés de manière générale, auprès de la direction pour que justement faire un peu le dialogue et réussir à obtenir des droits qui ont demandé les salariés. On fait un peu le porte-parole des salariés souvent.
D'ailleurs, je pense que c'est une notion importante. Je vais te passer, bien sûr, la parole, Nadine. Non, simplement, Thomas mentionnait les élections et je crois que les syndicats ont vocation à avoir un fonctionnement démocratique pour représenter de manière démocratique l'ensemble des travailleuses et travailleurs. Alors, je vois, voilà, Thomas opine la tête. Je pose naïvement la question. Est-ce que vous pouvez peut-être compléter là-dessus? Moi, Nadine, tu souhaitais réagir par ailleurs.
Oui, je souhaitais compléter un petit peu ce que disait Thomas, en effet, parce que au-delà d'une activité de porte-parole de salariés, on va bien au-delà, c'est-à-dire qu'on représente l'intérêt de la profession de façon générale, et c'est pas seulement être l'intermédiaire ou un peu le tampon entre les salariés et l'employeur, mais c'est bien s'assurer que les droits des salariés tels qu'ils sont édictés par la loi, par les accords, etc., sont bien respectés, et faire notre rôle de syndicat en les faisant respecter s'ils ne le sont pas, et en négociant, comme disait Thomas tout à l'heure, en négociant des avancées sociales également. Mais je voulais juste intervenir en fait sur le positionnement peut-être très particulier de Solidaire Informatique et de l'Union syndicale Solidaire, c'est qu'on est au-delà de la défense des intérêts des salariés sur le plan social, on est aussi très présent et c'est très important pour nous sur des enjeux sociétaux, c'est-à-dire des actions en termes de lutte contre par exemple le sexisme, des luttes féministes, la lutte contre le racisme, l'écologie, enfin un certain nombre de sujets d'éthique et sociétaux qui sont très très importants pour nous également.
Oui, ça faisait partie des sujets que j'aurais aimé qu'on aborde, et on peut l'aborder tout de suite d'ailleurs. Et effectivement, ça se voit notamment si on va sur le site de Solidaire Informatique, dans les différentes prises de position politiques. On voit qu'effectivement, d'ailleurs, dans le mando, ça, vous parlez de l'engagement antiraciste, antisexiste, pro-féministe, etc. Donc vous n'êtes pas strictement, c'est ce que tu disais, dans la représentation des travailleuses et travailleurs, mais dans un engagement politique plus large, si en gros je résume à gros traits ton propos.
Tout à fait.
Un aspect qui me paraissait intéressant, c'est cette notion de travailleuse-travailleur, alors qui est mise en avant, travailleur du numérique, il me semble, sur le site que tu as commencé à évoquer, Nadine. Qu'est-ce que vous représentez strictement les salariés, que les travailleurs-travailleuses? Et je vais joindre une question quand même m'a posée un membre de l'April en amont de l'émission, qui, je pense qu'elle est en lien, qui aimerait savoir si votre syndicat fait des actions pour les personnes, par exemple, en recherche d'emploi. Est-ce que, est-ce que si les personnes au chômage sont des travailleuses-travailleurs?
Thomas
Luquet.
Pour les personnes en recherche d'emploi, je sais que de temps en temps, il y a des CV qui passent qu'on peut essayer de faire, mais je crois pas que c'est pas notre activité principale. En revanche, on s'indique les retraités, très clairement, de l'informatique.
Nadine, tu souhaiterais compléter?
Oui, tout à fait. Ce que dit Thomas, en fait, c'est vrai que donc on syndique les retraités. On s'est beaucoup posé de questions sur l'évolution aussi de du travail dans la société au sens large, hein, à savoir notamment le développement qu'on déplore, mais qu'on ne peut que constater de l'auto-entrepreneuriat et de toute cette forme de travail qui fait perdre aux gens une certaine protection sociale. Donc, on syndique aussi des, comme on dit, travailleurs et travailleuses. On ne dit pas salariés et salariés. Donc, c'est aussi des auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses qui syndiquent, sous réserve qu'ils ne soient pas eux-mêmes employeurs, des sous-traitants. Et c'est vrai que sur la question des chômeurs, on a, nous, malheureusement, des adhérents qui deviennent chômeurs. Ils sont toujours bienvenus dans, et ils continuent souvent pour beaucoup d'entre eux parce qu'on aménage justement l'adhésion de telle sorte qu'elle n'ait pas de coût, quasiment pas de coût pour eux. Mais on n'a pas de démarche, comme tu demandais, Étienne, de démarche spécifique envers les chômeurs et chômeuses. Juste pour finir là-dessus, je pense que ça tient aussi au fait que pendant longtemps, c'est peut-être de moins en moins vrai, mais pendant longtemps, il est vrai que le secteur de l'informatique était tellement florissant que perdre son emploi n'était absolument pas une difficulté ou quasiment. Depuis quelques années maintenant, ça devient un vrai problème, notamment pour des populations plus âgées. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans nos actes pour l'instant d'action.
Ouais. Oui, c'est intéressant. Effectivement, les syndicats évoluent aussi dans la réalité des contextes sociaux dans lesquels ils se situent selon les secteurs. Thomas, j'ai l'impression que tu souhaitais réagir, enfin compléter.
Non, Nadine a dit l'essentiel, mais effectivement, dans notre profession, il y a un truc qui est spécifique, c'est qu'on a un emploi qui est quand même assez fort, notamment chez les jeunes. En revanche, passé la barrière des 45-50 ans, il y a des salariés qui se font mettre au placard et il faut en parler parce que, genre, les gens de mon âge ne voient absolument pas le truc arriver, mais voilà, quand t'as 55 ans, que t'es expert en COBOL,
un langage de programmation,
mais qui était très utilisé dans les 70, 80, et qui aujourd'hui commence un petit peu à être moins demandé, eh ben, il y a de la répression sur les vieux salariés qui, arrivent en fin de carrière, ont un gros salaire et ne sont plus hyper utiles sur le marché de l'emploi, et il y a vraiment des scandales qui se vivent là-dessus où des salariés d'informatique se font virer de manière malpropre.
Entendu. Alors, je vais relayer deux questions qui se rentrent dans ce sujet, qui sont sur le salaire de la radio, donc de Marie-Odile, qui demande si vous défendez également les travailleurs et travailleuses du CLIC. Donc, elle fait référence aux travaux du chercheur Antonio Cassilli. Et Laurent demande si vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre dans les luttes contre les grosses plateformes telles Uber.
Alors, je ne sais pas si Thomas veut répondre.
Ouais, sur le CLIC, on essaye. On a fait venir des experts pour justement nous parler un petit peu de ce sujet-là. C'est très difficile de syndiquer ces gens-là parce qu'ils sont justement derrière des plateformes. Je pense Amazon Truck et ce genre de choses. C'est très difficile de les contacter. On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas comment ils travaillent. C'est des gens qui ne viennent pas frapper à notre porte. Souvent, c'est des gens qui d'ailleurs n'habitent pas en France et qui habitent en Inde, ce genre de choses. Donc, on aimerait bien faire quelque chose là-dessus. Si vous avez des contacts, si vous êtes travailleuse ou travailleur du CLIC, n'hésitez pas à nous contacter parce que vraiment, il y a un boulevard qui s'ouvre là-dessus et une exploitation horrible qui est en train d'avancer là-dessus. Mais c'est vrai que, un syndicat, en général, ça commence quand il y a deux personnes dans une même entreprise qui se parlent à la machine à café. Et quand chacun est derrière son PC à distance dans des pays éloignés, on ne sait pas encore comment faire. En tout cas, je pense qu'on a une marge de progression à faire là-dessus. Et enfin, donc les grosses plateformes sur Uber, on n'a pas de, je crois pas qu'on ait de syndiqués chez eux ni dans les VTC de manière générale. Après, est-ce qu'on est pour ces plateformes-là? Non, parce qu'évidemment, c'est l'exploitation des travailleurs. Voilà, on n'aime pas cette, on pense que c'est pas le meilleur contrat que d'être auto-entrepreneur, et on le voit, il y a des auto-entrepreneurs dans l'informatique. On en a parlé depuis quelques temps, on a changé notre règlement intérieur pour justement syndiquer des auto-entrepreneurs qui étaient considérés comme des patrons entre guillemets, alors que socialement c'est pas exactement ça. Nadine,
c'est pareil, là j'ai pas forcément beaucoup de choses à rajouter. C'est vrai que sur les travailleurs du CLIC, c'est un sujet, et Thomas connaît particulièrement parce qu'il est lui-même adhérent de cette section territoriale qui est Solidaire Informatique Île-de-France, avait été un sujet de réflexion apporté par un de nos adhérents. C'est vrai que c'est des réflexions qu'on mène, mais qui pour l'instant, comme disait Thomas, n'aboutissent pas. Et pour l'auto-entrepreneuriat, en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos statuts ont évolué récemment justement pour syndiquer les travailleurs de plateformes et des auto-entrepreneurs, comme je disais, sous réserve qu'ils ne soient pas eux-mêmes des employeurs, quoi.
Oui. Voilà. Entendu. Alors, du coup, je pense que c'est pas non plus complètement dedans. Tu parlais de la distance, de se retrouver autour dans une même entreprise et d'échanger pour pouvoir commencer à syndiquer. On voit bien peut-être aussi que c'est pas complètement anodin que certaines grandes entreprises capitalistes fassent en sorte que justement les personnes ne puissent pas se retrouver, que ce soit en les mettant en distance ou en passant par des statuts comme notre auto-entrepreneuriat. Alors du coup, ça met une question de savoir sur, donc vous êtes engagé sur, de manière générale, on va dire, les métiers de l'informatique. Hein, vous avez déjà expliqué que ça se décline sous différentes manières. Alors, est-ce que c'est, alors je parlais de secteur, est-ce que c'est un secteur qui est fortement syndiqué, peu syndiqué? Alors, c'est ce que m'a semblé comprendre. Comment vous l'expliquez? Est-ce que ça évolue?
C'est Thomas Luquet. Nadine, tu veux commencer?
N'importe. Enfin, je réagis un peu par rapport à ça parce qu'il y a plein de sujets là-dedans, en effet, sur la. Alors, je voudrais juste rebondir sur le travail.
Je t'invite à le faire. Excuse-moi, je t'interromps.
Oui, je voulais juste parler du télétravail un peu rapidement, mais peut-être moins qu'on y revienne un peu plus loin.
On pourra y revenir, mais je t'en prie, oui.
Parce que tu évoquais en fait le fait que les sociétés organisent la mise à distance des travailleurs justement pour éviter cette fédération un peu de force pour défendre ses intérêts. C'est un sujet de fond sur lequel il faudra qu'on réfléchisse très sérieusement aussi parce que le télétravail qui était jusqu'ici, de ce que je vois moi, de ce que je constate, le télétravail était un problème culturel des entreprises par manque de confiance envers leurs salariés. Du fait du confinement, de la pandémie est devenu très massif dans nos secteurs et sur lesquels les employeurs voient tout l'intérêt, tout le bénéfice qu'ils auraient à ce mode de fonctionnement en mettant bien sûr en œuvre tout ce qui leur permet de se sécuriser et d'assurer, mais qui empêche les gens de communiquer entre eux, qui permet de faire des économies, etc. Donc c'est un gros sujet de réflexion. Mais par contre, pour revenir sur la syndicalisation du secteur, ben, comme toutes les entreprises, comme tous les secteurs, la syndicalisation est forcément un peu difficile. Elle est parfois plus difficile dans le secteur de l'informatique parce que justement les gens sont beaucoup à distance. Voilà, je pense que c'est pas forcément pire qu'ailleurs, mais c'est quelquefois difficile aussi parce que c'était une population relativement bien traitée au niveau salarial pendant de nombreuses années, avec des statuts de cadres, même si dans le métier, c'est pas forcément des cadres, mais voilà. Ça a créé une population quelquefois un peu confortable, qui s'est un peu éloignée du syndicalisme, mais que je pense voir revenir un peu avec les plus jeunes notamment, qui souffrent plus malheureusement des conditions actuelles.
Thomas, tu souhaitais réagir ?
Elle a dit l'essentiel. Je pense qu'on est... Effectivement, moi, je le vois dans mon entreprise, on a la trentaine, on est dans la Startup Nation, tout va bien dans le meilleur des mondes, regardons, on a un baby-foot, c'est formidable. Et du coup, les gens se posent la question de pourquoi se syndiquer, puisque mon salaire est à peu près correct, que j'ai un baby-foot et qu'il y a café gratuit. Ça marche 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis à un moment, il y a des coups de pression qui commencent à arriver, il y a des objectifs un peu chiffrés qui commencent à arriver, et il y a un peu de la pression. Je pense qu'un des points qu'on a à gérer en tant que syndiqué, c'est la maladie qu'on sur notre travail, il y a peu d'accidents du travail, mais par contre, il y a des burn-out dans le milieu des ingénieurs et des CS2I. Du coup, là, on commence un petit peu à syndiquer. Et après, effectivement, les gens qu'on arrive à syndiquer, c'est les gens qui sont assez ouverts politiquement, assez engagés, notamment les libristes. Voilà, ces gens-là se syndiquent un peu plus que les autres, j'ai l'impression. Et voilà, mais c'est sûr que quand on a un gros salaire, on a un salaire de cadre moyen, les gens ne comprennent pas l'intérêt, ils ont l'impression d'être dans une classe qui fait des biens, et la société les met en avant, etc., etc. Donc il faut un peu de temps. Effectivement, les très jeunes et je pense les très vieux, eux, sont plus fragiles sur ces questions-là. Et donc dans ces fragilités, en général, là, effectivement, ils viennent voir les syndicats pour avoir un peu d'aide. Voilà. Et puis un dernier point, je pense aussi, c'est les écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs, c'est des milieux qui sont très peu politisés, où ça éveille peu les réflexions politiques et syndicales. Et du coup, effectivement, quand ils arrivent en entreprise, ils n'ont pas ces réflexes-là. Quoi.
Entendu. Alors du coup,
Nadine... Pour avoir un panorama un peu plus exhaustif peut-être, moi je voudrais revenir sur le secteur du jeu vidéo qui est un peu atypique dans ce milieu-là et qui fait partie aussi de notre champ de syndicalisation. Globalement, ce qu'on entend dire et ce qu'on constate, c'est que nos camarades salariés du jeu vidéo sont beaucoup moins bien traités que...
Clairement.
Et puis même si ça s'est beaucoup dégradé aussi hein, dans les services, etc. Mais le jeu vidéo, comme c'est en plus sur des activités entre guillemets plaisir, où les gens investissent aussi beaucoup cette activité parce qu'ils sont vraiment passionnés, il y a vraiment des conditions particulièrement mauvaises et de ce côté-là, peut-être que la syndicalisation sera plus forte assez rapidement.
Tout à fait, ouais. Je suis hyper d'accord avec ce que dit Nadine. Tout ce que je viens de dire à l'instant n'est pas vrai pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo, justement, la tension sur le marché de l'emploi, elle n'est pas du tout pareille. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans le milieu du jeu vidéo. Et du coup, les employeurs en profitent pour faire baisser les salaires et imposer des charges, imposer ce qu'on appelle le crunch, qui est un moment où on pressurise les travailleurs juste avant le lancement d'un jeu vidéo. Et ça crée des problèmes très graves. Et du coup, effectivement, moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, on a de plus en plus de syndiqués qui viennent du milieu du jeu vidéo parce qu'ils se rendent compte de l'exploitation, des problèmes qu'il y a dans leur boîte, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on a vu, alors j'ai pas les exemples en tête et on pourra les mettre si les gens y pensent dans les références. On a récemment des exemples réguliers de scandales dans des grandes productions de jeux vidéo.
On est, comment on dit, responsable. On a fait les choses en place pour que c'est à. Ah là, j'ai un trou évidemment. On a un des grands boss de... Ah, j'ai oublié le nom de cette entreprise française
Ubisoft.
Très connue. Ubisoft, voilà.
Un des, et Quantic Dream. Ouais.
Voilà, un des boss de Ubisoft a quitté l'entreprise officiellement pour faire du jardinage. Nous, on considère que c'est parce qu'il y a des vraies questions de sexisme au sein d'entreprise qui se sont passées. Et voilà, on a fait une campagne, on a expliqué les choses, on a recueilli des témoignages. Et même juridiquement, ça s'est passé. Du coup, les choses commencent un petit peu à bouger sur... la question du sexisme dans le milieu du judo qui est un énorme problème. Voilà. Et du coup, la section syndicale de Ubisoft a fait un travail exemplaire, à mon avis, là-dessus.
Oui, alors du coup, c'est pour revenir, donc, oui, c'est vrai que vous êtes organisé dans différentes sections avec différentes, qui représentent différentes entreprises, différents types de secteurs. Donc voilà, Ubisoft, je vais toute la liste, on peut la retrouver effectivement sur le site. Alors avant qu'on fasse une pause musicale, j'ai une question. Alors, on a clairement compris qu'effectivement, vraiment que je n'ai rien compris, que les syndicats sont des organisations politiques, elles mènent un combat politique. Quelle est la différence avec un parti politique, justement ?
On se présente pas aux élections. On n'a pas. Voilà, on se présente pas aux élections. Si on revient à la charte d'Amiens, qui est un texte qui a été voté en 1911, dont on se revendique un petit peu, l'objectif, c'est l'autogestion par les syndicats des entreprises. C'est ça notre objectif final. Donc on veut pas gagner aux élections, on veut que les syndiqués gèrent l'entreprise en autogestion. Bon. Je crois que ça va pas arriver demain, mais on se bat tous les jours pour. Et voilà. Et du coup, ça veut dire changer la vie des salariés et changer le monde. Mais ça veut pas dire s'inscrire dans un schéma politique traditionnel. On veut pas aller aux élections, on veut pas se présenter, on veut pas se rentrer dans le jeu de la République. C'est pas ça notre objectif.
Nadine, tu souhaites compléter ou tu te...
Non, je pense que c'est très clair. Les propos de Thomas sont très clairs et posent bien le cadre d'intervention
peut-être,
du syndicat. Ouais.
Mmh. Peut-être pour repréciser, on a quand même des avis sur le monde et sur les politiques qui sont en train d'être menées. Hein. Quand le gouvernement nous propose une réforme des retraites, évidemment, on n'est pas d'accord parce que c'est un désavantage pour les salariés. Et du coup, on n'hésite pas à critiquer le gouvernement là-dessus. On n'hésite pas à faire des manifs, des grèves pour justement exprimer notre mécontentement et faire en sorte qu'il écoute les gens et pas ses intérêts à lui.
C'est très clair. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde, le texte du Charte d'Amiens est un texte intéressant à lire, qui n'est pas particulièrement long non plus, et qui précise bien effectivement l'organisation entre partis politiques et syndicats.
Et religion aussi.
Pardon ?
Je crois que c'est écrit, on refuse d'incorporer à l'intérieur du syndicat les problèmes ou les questionnements des partis politiques et des sectes, sous-entendu la religion. Je crois que c'est ça. Mm-hmm. C'est un peu daté.
C'est fondateur.
Super. Eh ben, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale pour s'aérer les méninges. Nous allons écouter, comme nous l'avons dit, le Musée d'air contemporain, le deuxième morceau de Captain. On se retrouve dans 3 minutes. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
Cause Commune. C'était l'hiver, le jour de la sortie scolaire, au musée d'air contemporain. La lutte des classes pour les professeurs qui menacent les gamins qui ne contemplent rien. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des armes dans des frigos, et puis moi je trouvais ça beau. Un guide austère nous dépeignait l'histoire de l'air, la période bleue, la période noire. Comme si la planète était une grande palette, avec le trou de la couche de jaune. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça chouette. Thank you. qu'avant, il y avait de l'air, il y avait du vent, de la verdure dans les prairies. Oui, mais maintenant la terre, le ciel, les océans, ils sont tout froids, ils sont tout gris. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça beau. Fin de la visite, on se dirige vers la boutique du musée d'air contemporain. Bouteilles d'eau claire, sachets de terre et bonbonnes d'air, fruits et légumes en parfum. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça beau.
Nous venons d'écouter le Musée d'air contemporain par Captain, disponible sous licence libre Creative Commons, partagé dans les mêmes conditions, CC BY SA. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April, et nous discutons avec Nadine Stéphan et Thomas Luquet de Solidaire Informatique, un syndicat de travailleuses et travailleurs des métiers de l'informatique, du conseil et du jeu vidéo. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors, on a commencé à l'évoquer dans la première partie de notre échange, la question voilà, du logiciel libre, l'usage du logiciel libre dans votre syndicat. Alors, c'est vrai qu'on a une émission qui est consacrée notamment aux libertés informatiques, et ce sujet nous intéresse au premier chef. Alors, en gros, je pense qu'il sera intéressant de voir c'est quelle est la place du logiciel libre déjà dans vos pratiques, et puis dans vos revendications en tant que sujet politique. Alors, peut-être, première question, avant de rentrer dans spécifiquement le logiciel libre, comment vous êtes organisé, point de vue système informatique, Solidaire Informatique, voilà, vous êtes autonome. Il y a un syndicat, un système informatique, ouais. De Solidaire en général. Comment ça s'organise ?
Alors les syndicats sont indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que Solidaire Informatique a ses propres systèmes, que d'autres et les autres solidaires, donc Sudrail ou d'autres, ont leurs propres trucs. Au sein de Solidaire Informatique, on a un serveur à nous qui est sur Nextcloud où on a un agenda partagé. On a aussi un Gisti donc qui nous permet de faire de la visioconf. On était sur Teamspeak avant. Donc, tous contents d'avoir passé sur Gisti, quasiment. Notre blog est géré par WordPress et on travaille beaucoup encore, on en parlait tout à l'heure, sur mailing list où en fait l'essentiel de nos échanges est sur mailing list. Et après, quand on doit faire des points syndicaux, donc on fait des points mensuels qu'on appelle le conseil syndical, on le fait par Gisti où on échange, où on prend des décisions qu'on doit prendre.
C'est spécifique à la période ça ou ça a toujours été le cas ou...
Non, alors donc ce que je disais c'est qu'avant on faisait nos réunions entre midi et deux sur Teamspeak qui était un logiciel un peu de gamer d'ailleurs open source qui permet de faire des conférences audio à plusieurs. Et non, du coup on a continué la pratique, on se voit ensuite en groupe parce qu'il y a des gens de toute la France donc on peut pas ramener tous les gens à Paris ou même ailleurs tous les mois, c'est pas possible, il faut qu'on prenne des décisions rapidement. Du coup, le Gisti c'est tous les mois, ça permet aux gens de toute la France de se connecter. Et après, les Parisiens se voient entre eux en physique parce qu'on a un local rue de la Grange-Aubelle, pareil, une fois par mois à peu près.
Ok. Comment vous...
Ça dépend. Juste pour
bien préciser, sûr.
Parce que c'est vrai que c'est pas toujours aussi vertueux que ça. La question se pose en effet de mettre en adéquation ses valeurs au quotidien, hein, et d'utiliser des outils. Ce que disait Thomas est tout à fait juste. Et par exemple, les outils qu'on utilise pour les réunions, les comptes rendus, ce sont des outils du libre au maximum au niveau du bureau, du conseil syndical, etc. Quelquefois, au niveau des sections d'entreprise, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Voilà, il n'y a pas de choses centralisées, non. Mais en permanence, c'est un sujet qui revient dans les discussions, dans les débats, dans voilà, les outils utilisés pour rédiger des tracts, etc.
Ouais, effectivement, chaque entreprise, des fois, ses pratiques locales ne respectent pas toujours à 100% les trucs. Nous-mêmes, des fois, on utilise des trucs de chez Google. Mais effectivement, au niveau parisien, au niveau national, on est 100% libre.
Okay.
Et c'est un truc qui a été voté, acté, comme un outil de développement et d'axe il y a quelques années.
Et du coup, c'est une décision politique, du coup.
Ouais, c'est une décision politique. Il y a quelqu'un qui a, enfin, un congrès, on a dit, bon, bah voilà, nos résolutions pour cette année, c'est on fait du libre et on arrête avec le logiciel propriétaire. Et
Et du coup, alors j'imagine, qui dit décision politique dit débat. Voilà, est-ce qu'il a fallu quand même un peu convaincre? Est-ce que ça a été assez naturellement? Bon, peut-être dans ce secteur, c'est peut-être un sujet qui est plus connu, on va dire, où les personnes sont un peu plus habituées à entendre parler de logiciels libres. Est-ce qu'il a fallu convaincre durement ou ça s'est fait facilement?
Moi, je suis arrivé après, donc je laisse Nadine répondre.
Ouais, je pense que c'est un peu en fil rouge dans le syndicat et c'est rappelé régulièrement. Pour autant, c'est vrai que tous les travailleurs et les travailleuses de l'informatique ne sont pas forcément des techos purs. Donc, c'est pas forcément des pratiques si courantes. Par exemple, on a des gens du conseil, on a des gens du logiciel, on a des gens d'un peu partout. Donc, tout le monde n'est pas forcément un adepte des outils. Et donc, c'est sans arrêt des choses qui reviennent en pointillé, en permanence. Mais voilà, ça reste un progrès permanent, quoi, nécessaire.
Oui,
c'est vrai, Nadine, la raison. On a aussi des gens qui sont un peu dans le hardware, qui sont dans les machines. Il y a des gens qui branchent des câbles, qui sont... voilà, on n'est pas tous des ingénieurs, quoi.
Alors, avant ça, une question sur le webchat de Laurent. Cette décision d'orientation avait fait l'objet d'un vote?
Oui.
Oui, en congrès, tout à fait.
Peut-être précision sur Solidaire, tout est voté, enfin tout est démocratique, il n'y a pas de chef qui décide pour tout le monde, c'est pas trop le genre du syndicat. Quoi.
Oui, c'est une structure horizontale qui est censée en effet prendre ses décisions de façon large et pas par. Il n'y a pas de Thomas, il y a des exécutifs et des choses comme ça, mais la décision se fait au niveau du conseil syndical dans les statuts de Solidaire Informatique. Et le conseil syndical, en fait, est représenté, prend des décisions par des mandats qui sont donnés par les sections d'entreprise et sections territoriales, donc sous cette forme-là.
Alors du coup, une question que je me posais, c'est qui s'occupe concrètement des systèmes du serveur, etc. C'est des salariés, c'est des mandats menés par des adhérents ou adhérentes?
C'est ceux qui sont motivés.
D'accord.
C'est un peu ça, oui.
C'est ceux qui sont motivés qui ont un peu de temps.
Beaucoup, mais oui, ouais.
En ce moment, c'est Yanis, et ça a été Manu pendant longtemps. On salue bien
c'est
fort,
souvent d'ailleurs. Des gens qui sont au bureau, qui viennent au bureau, qui prennent en charge un peu cette action-là. Ouais.
Et bon, j'imagine qu'il y a pas mal de compétences, parce qu'il me semble que dans beaucoup d'organisations, il peut y avoir des problématiques si tout le système repose sur une seule personne qui serait la seule avec les compétences et les connaissances pour accéder au serveur. J'imagine qu'il n'y a pas forcément ce problème-là, c'est une question de motivation surtout.
Ouais.
Oui.
Mm-hmm. Motivation, ouais, gestion, du temps, même,
ouais. Gestion du temps.
Mais c'est effectivement.
La guerre aussi. Donc logiciel libre, donc oui, vous avez parlé du congrès avec une décision qui a été donc prise, donc et qui donne un poids politique et ça effectivement c'est très important. Ben on parlait de d'engagement politique. Il y a des combats sur la liberté à l'informatique ou en général qui sont un peu au cœur de la guerre, enfin au cœur de la, excusez-moi, qui sont au cœur du sujet de l'actualité plutôt. Et vous avez vu, voilà, il y a des communiqués sur votre site. Alors on peut penser, alors, là je vous laisse un peu carte blanche. Il y a différents sujets. On a vu vos engagements, alors pu voir une prise de position dans le cadre de la campagne Technopolis de la Quadrature du Net, voilà, notamment contre la loi sécurité globale, contre Amazon, qui, alors je crois en plus qu'il y a un syndicat aux États-Unis, ils sont en train d'essayer de monter un syndicat dans un entrepôt dans l'Alabama, et on voit une campagne d'Amazon anti-syndicale qui se mène, et ça effectivement c'est un combat très intéressant et qui me semble important. Vous avez pris position contre Stop Covid, donc voilà, des positions importantes qui sortent finalement de seule représentation de l'intérêt direct, on va dire, des travailleuses et travailleurs de votre secteur, mais qui sont des positions politiques. Est-ce qu'il y a un de ces sujets sur lesquels déjà vous voudriez...
Moi je voudrais intervenir là-dessus, parce que comme on disait tout à l'heure, en début d'émission, on parlait des enjeux sociétaux qui sont très importants pour Solidaire Informatique. Bien sûr, on reste un syndicat de travailleurs et travailleuses avec la défense des intérêts des salariés, il ne faut pas oublier, on n'est pas en train de se disperser uniquement sur des sujets sociétaux, mais ça fait partie de la société dans laquelle on veut vivre et travailler. Et ces aspects-là nécessitent qu'on ait des vraies interrogations au niveau du syndicat. Et notamment, tu évoquais, Étienne, la création de ce syndicat chez Google, dont on voit justement qu'il s'est constitué. Et c'est peut-être un champ de développement du syndicalisme, développement au sens syndicalisation des travailleurs et travailleuses. C'est que ce syndicat-là, il s'est créé beaucoup sur des notions éthiques. J'en veux pour preuve que les gens qui ont lancé ce syndicat disent clairement qu'ils ont bâti Google, mais que c'est pas la société pour laquelle ils veulent travailler. Et donc, c'est un syndicat qui souhaite, en fait, se positionner aussi beaucoup sur des problèmes éthiques et pas seulement sur des salaires et des conditions de travail. Et on est, nous aussi, dans ces enjeux-là. Quand, par exemple, et je prends juste l'exemple d'Amazon, quand on s'oppose, qu'il y en a des adhérents locaux qui agissent en ce sens pour travailler à l'opposition à l'implantation d'entrepôts des Mazones, on est vraiment dans ces interrogations-là. Quelles sont les conséquences de la numérisation sur la vie des gens et qu'est-ce que nous, syndicats de l'informatique, devons poser comme question par rapport à notre microcosme, en fait, et les conséquences qu'il a.
Thomas ?
Ouais. Ouais, j'ajouterais aussi qu'on est aussi, enfin, on a la prétention, entre guillemets, de vouloir faire de l'éducation populaire, et en prenant des positions politiques sur Stop Covid, sur des questions éthiques et tout, on ramène aussi de la réflexion, du débat, de la discussion dans l'entreprise, parmi les salariés, parmi les gens qui, dans la boîte, s'intéressent peut-être moins ou pas aux questions politiques, et du coup, on a la prétention de dire, c'est aussi un syndicat, c'est aussi un lieu pour réfléchir, pour se poser des questions, pour s'imaginer un monde meilleur. Et il y a des fois où ça touche évidemment ce qu'on disait tout à l'heure sur la retraite, ça touche évidemment nos problèmes directs, mais des fois effectivement c'est plus loin, c'est plus large, comme des applications comme Stop Covid où effectivement on n'est pas directement lié sur son travail, mais voilà. Mais en fait on veut ce débat, quoi. On veut qu'il y ait de la réflexion, on veut que les gens se positionnent, et on préfère des gens qui nous disent non, vous dites n'importe quoi, on n'est pas d'accord, plutôt que des gens qui se taisent ou qui se cachent les yeux,
Ça, et en fait, ça m'évoque, tu parlais des écoles d'ingénieurs qui étaient un espace peu politisé. Et en fait, ce que ça m'évoque, c'est, en fait, les entreprises sont finalement des endroits où on passe beaucoup de temps, où on agit socialement à travers notre travail. Et en fait, il y a tout un intérêt, c'est extrêmement important collectivement d'en refaire un espace politique, puisque ça a des impacts importants écologiques, dans les rapports interhumains, que ce soit, sur l'égalité homme-femme, sur les problèmes de racisme, etc. Et donc, oui, c'est très important. Et en plus, on voit dans Amazon qui est une sorte de temps de l'exploitation, en plus qui utilise des logiciels où le logiciel devient le pur outil de contrôle du travail. Nadine, je te passe la parole.
Oui, je veux bien compléter là-dessus parce que c'est super intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi que nous fassions notre autocritique de ce que produisent nos métiers. Nous sommes acteurs de ces outils-là et donc il faut que nous nous interrogions et que les adhérents s'interrogent sur les conséquences de tous ces actes-là et de ce travail qu'on produit. Et à cet égard-là, par exemple, pour donner un exemple concret sur le congrès que nous allons avoir au mois de mars, il y a un débat conférence qui va se mener sur le capitalisme de surveillance. Clairement, on est acteur d'un certain nombre d'outils qui peuvent amener à ce mode de fonctionnement. Alors, pas parce que l'outil fait la société, parce qu'il y a des gens derrière qui ont des enjeux à mettre en place, à surveiller, etc., et pire, à gouverner. Et donc, c'est important aussi que la réflexion se mène au sein du syndicat sur ces aspects-là.
Clairement. Je peux parler d'un exemple concret. Dans mon entreprise, quand je suis arrivé, on nous donnait un ordinateur, on me disait tiens, prends-le, fais ce que tu veux, installe l'OS que tu veux, et c'est ton ordinateur.
Système d'exploitation, operating system.
Et oui, un système d'exploitation, donc les gens installaient ce qu'ils voulaient, et voilà. Et en fait, suite à des rachats et des politiques un peu différentes, on nous a dit en fait, maintenant, vous n'avez plus vraiment le droit de choisir votre OS. Enfin, on laisse ceux qui sont sous Linux parce que quand même, on ne veut pas se fâcher avec une partie des travailleurs. Mais par contre, on vous oblige à installer plein de logiciels de surveillance dans votre ordinateur. De Microsoft, etc., le MDM pour pas le citer, et ça a choqué énormément de développeurs parce que la machine, ton PC, c'est ton outil de travail, c'est ce avec quoi tu travailles, et du jour au lendemain, on t'oblige à avoir des logiciels que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, qui permettent de surveiller tout ce que tu fais, qui permettent aussi d'avoir un accès à distance. Alors ils te disent toujours que c'est pour des raisons de sécurité, c'est pour votre bien qu'on vous met une prison en interne de votre ordinateur, et c'est hyper problématique. Et du coup nous, en tant que syndicat, on a un peu gueulé à l'époque. On n'a pas, malheureusement, on n'a pas toujours obtenu gain de cause. Mais on veut pas de ces logiciels-là qui sont des logiciels privateurs où on ne peut pas avoir les codes sources, et on espionne les salariés au sein des entreprises, quoi.
Tout à fait. Et alors, en plus, ça, c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'on défend le logiciel libre, cette idée qu'il ne faut pas être contrôlé par sa machine. Si un logiciel privateur nous contrôle, et avec le logiciel libre, c'est nous qui contrôlons notre ordinateur. Et pour ramener ça peut-être au monde du travail, si on parle d'outils de travail, est-ce que les logiciels sont un des outils de travail qui peut être présent? Tout l'enjeu est de savoir si on a la maîtrise de cet outil de travail logiciel, ou si c'est finalement à travers cet outil. Enfin, cet outil sert à nous contrôler et à contrôler la manière dont on travaille. Et il me semble important, de manière générale, de permettre aux personnes qui travaillent c'est les plus à même de connaître leurs besoins, de déterminer la meilleure manière pour eux d'accomplir aussi leur travail, leur tâche ou leur mission de service public dans le cas du secteur public. Et en fait, là où je veux en venir, et ma question, c'est est-ce qu'en gros, c'est pas que pour les informaticiens, c'est pas que il faut pas que être informaticien pour que ce soit intéressant d'avoir du logiciel libre, parce que finalement tout le monde n'a pas forcément les connaissances pour bidouiller un logiciel. Par contre, tout le monde a un intérêt à pouvoir, enfin, est-ce que ce soit des logiciels libres pour pouvoir définir le besoin, pour pouvoir contribuer par d'autres manières et pouvoir avoir un outil de travail dont ils ont la maîtrise.
Tout à fait. Moi, j'ai l'exemple d'une copine à moi qui bossait au RH d'une grosse société. Un jour, elle a eu un différend avec son patron, où elle a compris que son patron organisait des trucs un peu frauduleux. Elle a commencé un tout petit peu à parler. Du jour au lendemain, son ordinateur était bloqué, elle n'avait plus accès. Et pourquoi ? Parce que dans son ordinateur, il y avait des logiciels qui contrôlaient, enfin, la sécurité de groupe avait fait des trucs qui permettaient de contrôler tous les PC à distance. Et du jour au lendemain, bloqué, plus de mail, plus rien, voilà. Et donc, ça, il y a un moment, voilà, il y a des logiciels qui contrôlent l'outil de travail de personnes. Et c'est des enjeux de pouvoir, quoi.
Nadine, tu souhaitais réagir ?
Non, pas particulièrement. D'accord. Parce qu'il y a plein de choses essentielles qui ont été dites, là, en effet.
Ah, je sais pas si on peut y en dire, mais c'est vrai qu'il y a, tu as parlé, alors moi, j'avais parlé d'Amazon, effectivement, Google, donc dans le sein de Google, il y a eu des actions syndicales. Et effectivement, une affaire assez intéressante récemment, alors tu as parlé, voilà, des personnes qui ont commencé chez Google et qui souhaitaient que ça se passe d'une autre manière. C'est vrai, chez Google, il y a eu deux licenciements assez retentissants de personnes qui travaillaient sur l'éthique, notamment de l'intelligence artificielle. Et, alors voilà, peut-être que c'est pas le chose que vous avez suivi, mais, j'aimerais peut-être, si c'est un sujet que vous avez suivi, avoir votre regard, sinon on avance.
Désolé,
c'est pas grave.
Là-dessus.
On n'en avait pas parlé. Bien sûr.
Ouais, je crois que la création de ce syndicat, en effet, est venue de désaccords fondamentaux sur des problématiques éthiques, en fait.
En un mot, c'est vrai que la question de l'éthique, notamment quand on travaille dans des sociétés de services où on est envoyé en mission chez d'autres prestataires, chez d'autres services, souvent, en tout cas pour moi, des grosses entreprises du CAC 40, c'est très compliqué quand t'es syndiqué de savoir où mettre ton éthique, quoi. Genre, si je devais refuser toutes les sociétés qui ne sont pas éthiques, je sais plus où je travaillerais, quoi. Et donc c'est toujours un peu la question qu'on se pose, et genre, est-ce que je m'interdis d'aller bosser dans telle entreprise ou telle entreprise, et du coup je risque d'avoir aussi un petit peu des retours en me disant bah attends, on te paye quand même pour travailler pour d'autres entreprises, donc si tu vas pas, comment ça se fait?
Ouais. Si je peux me permettre là-dessus, je pense que ça fait justement sa partie des missions des représentants syndicaux, enfin des délégués, des élus au CSE et autres représentants du personnel dans l'entreprise. C'est que on peut tout à fait imaginer qu'un salarié ait une grosse problématique pour aller travailler dans un secteur pour lequel il considère que ça heurte ses valeurs fondamentales. Alors c'est compliqué dans nos secteurs parce qu'un refus de mission clairement affirmé peut être une cause de licenciement, mais c'est ce que prévoit la convention collective en tout cas. Mais c'est des actions sur lesquelles les syndicalistes doivent intervenir, c'est-à-dire permettre à un salarié qui serait en incapacité d'intervenir dans une entreprise parce qu'elle a des valeurs totalement opposées aux siennes, qu'il puisse tout à fait être soutenu en interne dans l'entreprise.
Oui, très bien, merci. Alors, je veux juste préciser, parce qu'on a évoqué différentes choses, on a une page avec beaucoup de choses sont dites, on listera les liens, notamment, alors on a parlé effectivement de ce cas d'harcèlement sexiste et sexuel au sein d'Ubisoft, alors on a retrouvé des liens qu'on partagera pour les personnes qui veulent creuser. Laurent partage avec nous le cas d'une entreprise qui utilisait Suite Office 365 de Microsoft en tour de contrôle pour contrôler le temps de travail, donc il y a des exemples très concrets, des impacts très concrets de ces situations. Alors le temps, on arrive bientôt à la fin de notre échange. Alors, il y avait une question sur le salon, alors on va revenir à une action très concrète, à une actualité un petit peu. Est-ce que vous avez prévu des actions spécifiques pour la journée du 8 mars, qu'on rappelle la journée pour le droit des femmes?
Alors, on est solidaire traditionnellement agit en ce sens. Il y a des manifestations, il y a des actions. Je cacherai pas que Solidaire Informatique là doit aussi se positionner un peu clairement là-dessus. C'est vrai qu'on est en pleine préparation de congrès et que du coup, même si on communiquera forcément sur cette journée, on a déjà commencé à le faire. C'est un sujet important et qui est souvent, à mon sens aussi, et ça c'est une position personnelle, hein, mais dans les syndicats en général et dans le nôtre aussi, il faut aussi réfléchir à ça. On ne traite souvent pas suffisamment de ce sujet-là, notamment parce que la féminisation des syndicats, elle pose aussi problème, et pas seulement dans les entreprises dans lesquelles on est, mais aussi au sein du syndicat. Il faut quand même noter que notre secteur est moins féminisé, le secteur d'activité professionnelle, est moins féminisé que dans les années 80, donc il y a un vrai problème. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, toutes les entreprises appellent sous couvert d'éthique à ce que les femmes rejoignent le secteur informatique, tout simplement parce qu'elles manquent de ressources et qu'elles ont besoin de chair fraîche, quoi. Mais syndicalement, je pense que c'est un sujet qu'on ne traite pas suffisamment et sur lequel on commence aussi à réfléchir de façon un peu plus importante parce qu'on a aussi un gros travail à faire de notre côté.
Tout à fait aligné avec Nadine, quoi.
Alors, je vais vous parler de la campagne d'Amazon anti-syndicale montée contre ce projet. Est-ce que, selon vous, Amazon a raison d'avoir peur de ce qui se passe dans cet entrepôt, de la syndicalisation de ces travailleurs-travailleuses?
ils ont toujours raison d'avoir peur des syndiqués. Le but d'un syndicat, c'est de s'organiser justement pour défendre les intérêts de la direction d'Amazon ne sont pas celles des salariés. Et donc, ouais, ils ont raison d'avoir peur, et j'espère qu'on va leur prouver qu'ils ont peur, et que justement ce syndicat pourra faire des trucs intéressants.
Si je peux compléter, je pense que oui, tout ce qui rend visible des oppositions, la contestation d'un modèle de société, ne peut qu'on, il y aura des retours de bâton, ils mettront en œuvre forcément tout ce qu'ils font. Il faut quand même noter que, par exemple, nos camarades de Sud Commerce et Services, qui sont donc implantés chez Amazon, ont quand même eu des actions fortes pour défendre les salariés dans la période de pandémie, là, puisqu'ils ont agi pour les conditions de travail des salariés. Et la justice a donné raison aux syndicats en l'espèce. On voit bien la façon délétère qu'a eu Amazon de réagir en arrêtant tous ses entrepôts alors que la décision de justice ne le demandait absolument pas. Tout ça justement pour porter préjudice à l'image des syndicats. Mais bien sûr que quelque part, ils ne sont pas complètement indifférents à la présence de syndicats, bien évidemment.
Ouais, c'est peut-être un message qu'on peut lancer, c'est syndiquez-vous, même si vous avez l'impression que ça ne sert à rien, même si vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais obtenir tout ce que vous voulez. Et effectivement, peut-être qu'à la fin, on n'aura pas renversé le capitalisme et toute l'exploitation du monde. En vrai, de temps en temps, juste dire il y a des gens qui sont pas tout à fait d'accord avec vous, ça fait déjà changer énormément de lignes. En tout cas, moi je le vois dans mon entreprise, le fait juste qu'il y a des syndicats et qu'on soit là et que sans forcément rentrer dans des batailles ou dans des bagarres, montrer juste que bah il y a des gens qui s'intéressent et qui sont vont peut-être pas être d'accord, et ben ça permet au minimum du minimum, ça permet une réflexion. Quand il y a personne qui s'oppose, il y a pas de réflexion.
Et j'appuie les propos de Thomas, même au-delà, parce que dans l'exemple de Sud Commerce et Services, peut-être que si Commerce et Services n'avait pas agi et qu'une décision de justice n'était pas tombée, il y aurait peut-être des gens, du fait des conditions sanitaires déplorables qu'il y avait chez Amazon, peut-être des gens qui seraient morts aujourd'hui. Enfin, il y a des gens qui auraient eu des problèmes de santé. Donc clairement, oui, les syndicats gagnent aussi des batailles. Donc se syndiquer, c'est pas inutile. Qu'il y ait des syndicats dans les entreprises, c'est pas inutile, bien au contraire.
De toute façon, je pense que c'est pas dans le monde du c'est libre qu'on a besoin de convaincre de la force du collectif et de l'importance aussi de faire communauté. Alors notre échange va bientôt, on arrive sur la fin de notre échange, mais je voudrais quand même vous laisser le temps à chacun, à tous les deux de conclure. Est-ce qu'il y a un point, soit sur lequel vous voudriez revenir pour insister un peu, un sujet que nous n'avons pas abordé mais qui vous tenait à cœur, ce que vous voulez en fait, Thomas?
Ouais, moi j'avais noté, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, quand tu as posé la question à quoi sert un syndicat, en fait souvent les gens viennent nous voir parce qu'ils ont des points légaux, techniques, et du coup les syndiqués en général connaissent un tout petit peu en droit du travail, parce que souvent ils ont eu des formations, parce qu'ils ont des jours prévus pour ça, pour se former sur les questions de droit du travail, et surtout le fait que quand on est dans un syndiqué, on met de l'argent dans une caisse commune, et avec cette caisse commune, on peut, en tout cas on a ça sur l'informatique, on peut accéder à des conseils d'avocats spécialistes en droit du travail, qui sont des experts hyper formés, hyper calés, et qui connaissent bien mieux le droit du travail que n'importe qui dans l'entreprise. Et du coup, se syndiquer, il y a aussi un truc un peu pratico-pratique, c'est d'avoir des réponses juridiques quand vous en avez besoin. L'argent aussi qu'on utilise dans le syndicat, elle sert aussi à constituer des caisses de grève, et on met un peu de sous de côté tous les mois, et le jour où il y a un problème, le syndicat il peut aider les copains qui veulent faire grève ou qui veulent un peu taper du poing sur la table. Et ça, c'est une arme hyper forte et hyper intéressante. Et comme on a la chance à Solidaire Informatique d'être, je dis, un peu riche, entre guillemets, parce qu'effectivement, le milieu de l'informatique, c'est pas le milieu qui se met en grève toutes les cinq. Trop souvent, donc on a des salaires un peu plus hauts que aussi la moyenne des Français, on a un peu de sous et du coup on donne un peu à des assos, et d'ailleurs des assos libristes, et à d'autres salariés qui en ont besoin. On a fait un petit don pour d'autres gens qui sont en galère, et donc la solidarité s'organise aussi par l'argent, quoi. C'est ça que je veux dire.
Nadine ?
Ouais, alors moi je voudrais peut-être intervenir sur deux points. C'est vrai que la période là, actuelle a été aussi néfaste à quand même un certain nombre de travailleurs et travailleuses, notamment avec des fins de contrat abusives, des fins de période d'essai abusives, etc. Je ne sais pas si c'est en lien direct, mais en tout cas sur cette période on a noté quand même une progression de l'adhésion. Donc preuve s'il en est que les conditions qui se durcissent dans le secteur informatique amènent aussi des gens à se reposer des questions. Et puis en message un peu de motivation, je dirais que se syndiquer, quelquefois si c'est dans l'entreprise, c'est monter en compétence sur un certain nombre de sujets qui concernent nos droits. Puis s'engager syndicalement, c'est trouver aussi beaucoup de motivation au fait de défendre les intérêts des autres et apprendre énormément. Donc voilà.
Et puis c'est ça, sympa.
Que je voulais passer.
Ça, juste un dernier mot, c'est sympa aussi, on se fait des copains, enfin c'est con, mais...
Non, la convivialité,
je pense que c'est hyper important. Il y a une convivialité qui est forte aussi dans le syndicat, et quand ça se passe mal au boulot, le fait de revoir les copains, c'est toujours super sympa.
Comme on dit, je crois que la lutte doit être heureuse aussi pour produire.
La lutte doit être heureuse, exactement.
La lutte joyeuse. Écoute, un grand merci à tous les deux, ça a été un vrai plaisir d'avoir cet échange avec vous, donc... Nadine Stéphan et Thomas Luquette, Solidaire Informatique. Je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée et puis bonne courage et force à vous.
Merci beaucoup.